Vous êtes sur RTL.
Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, François Bayrou, haut-commissaire au plan et maire de Pau. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour François Bayrou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui et à mes côtés pour vous interroger, Marion Mourgue du Figaro. Bonjour Marion.
Bonjour.
Et Adrien Jeanne de TF1 LCI.
Bonjour.
Adrien, cette émission est bien sûr en direct, vous le savez, jusqu'à 13h. Vous pouvez interpeller notre invité via les réseaux sociaux, hashtag Le Grand Jury, et vos questions seront relayées en fin d'émission. Alors François Bayrou, vous avez jeté un sacré pavé dans la mare en remettant sur la table la proportionnelle pour les législatives. Quitte à mettre dans l'embarras peut-être le président de la République pour qui le dossier n'est pas, nous dit-on, sur le haut de la pile. Nous en parlerons bien sûr dans la seconde partie de cette émission. Mais avant cela, nous allons revenir sur la pandémie qui frappe notre pays depuis maintenant un an. Entre-temps, François Bayrou, vous êtes devenu haut-commissaire en charge du plan. Autrement dit, vous avez pour mission de vous projeter dans l'avenir, d'anticiper les besoins de la France et ses investissements. Quand on voit notre échec, François Bayrou, à produire un vaccin contre le Covid, quand on voit aussi qu'une PME française a dû se tourner vers nos voisins britanniques car tout y est plus facile, elle s'appelle Valneva. On se dit que votre mission est complexe et surtout peut-être trop tardive. La France est-elle sur la voie du déclin ou peut-elle rebondir ? Nous en parlerons bien sûr également dans cette émission. Mais pour le présent, le temps est suspendu. François Bayrou, pas de reconfinement. Mais pour combien de temps ? Première question, Adrien Gindre.
Oui, puisqu'encore une fois, ce matin, l'épidémiologiste Arnaud Fontanet, qui est membre du conseil scientifique, fait cette mise en garde. Sans confinement, les chances de contrôler l'épidémie sont minces. On en vient à se demander, François Bayrou, si on ne joue pas avec la santé des Français, si on peut réellement attendre encore avant de confiner et prendre le risque de voir le nombre de morts augmenter.
Alors c'est drôle, la semaine dernière, si vous m'aviez interrogé il y a 8 ou 9 jours, vous auriez dit on est en train de reconfiner, c'est comme si c'était fait, c'était annoncé par tous les médias et tous les observateurs politiques et tout le monde s'apprêtait à taper à bras raccourcis sur la décision de confinement. Et puis le président de la République, à mon avis avec une liberté et un esprit de responsabilité que je trouve très juste, a pris le contre-pied de tout ce qui était annoncé.
Donc Arnaud Fontanet se trompe lorsqu'il dit les chances sont minces de contrôler l'épidémie sans confinement.
Je ne vais pas dire Arnaud Fontanet, qui est un grand savant et à qui je suis lié pour des raisons que vous observerez dans sa généalogie. Mais vous n'allez pas dire, je ne vais pas dire qu'il se trompe. Ce n'est pas ce que je veux dire. J'ai dit deux choses depuis le début. Le premier, c'est que le confinement, c'est une décision de dernier recours. Quand on a l'épidémie qui explose. Est-ce qu'elle explose aujourd'hui ? Les chiffres ne disent pas ça.
Mais faut-il attendre qu'elle explose, François Bayrou ?
Attendez, les chiffres ne disent pas ça. Les chiffres disent qu'on est sur un plateau. Et quand j'observe au jour le jour, parce que j'observe ça au jour le jour, à Pau, où on fait plusieurs milliers de tests par jour en moyenne, quand j'observe les chiffres à Pau, on a eu la courbe classique, c'est-à-dire au moment où ça allait très mal, on est monté à une contamination de 17% dans les tests. Et puis on est redescendu peu à peu à 5%. Et puis après, on a observé le même ressaut que partout ailleurs. Et on est remonté à 7,5%. Et on est descendu en 15 jours de 7,5% à 3%.
Si ce n'est qu'il y a des paramètres comme les déprogrammations qui ont commencé.
Je donne des renseignements et des chiffres précis. Et quand je regarde les hospitalisations et aussi les entrées en réanimation à Pau et ailleurs, alors je vois que pour l'instant, on n'est pas à l'explosion.
Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour vous.
Il y a lieu de faire attention. Et c'est pas la même chose.
Mais quand les professeurs...
Pour moi, je l'ai défendu beaucoup, comme vous le savez, y compris sur votre antenne. Mettre un pays sous cloche, fermer le pays, bloquer tous les liens sociaux, à mon sens, c'est un risque qui est aussi un risque très important.
Mais est-ce que ça risque pas d'être pire si on attend, François Bayrou? Aujourd'hui, on nous dit, d'accord, c'est le dernier recours, mais si on attend pour reconfiner, est-ce qu'on ne devra pas reconfiner plus sévèrement et du coup, eh bien, freiner davantage en temps notre activité?
Je pense que notre devoir et notre responsabilité, c'est de vivre avec cette menace et de la contrôler tout en continuant à vivre. Que les écoles demeurent ouvertes. On va heureusement, si j'ose dire, dans le calendrier, avoir les vacances. Mm-hmm. Et donc on va, j'espère, avoir un freinage de l'épidémie. Et puis ce que j'observe, c'est que la très grande majorité des Français sont assez sérieux. Ils font attention, ils mettent beaucoup d'espoir dans le vaccin. Je vous rappelle les polémiques sur le vaccin. Quand j'ai recommandé une carte de vaccination ou un passeport vaccinal, comme on disait, je me suis fait insulter, traiter de tout sur les réseaux sociaux.
Et vous n'avez pas changé d'avis aujourd'hui.
Et je n'ai pas changé d'avis. Du moment qu'on vérifie l'efficacité du vaccin et l'innocuité du vaccin, alors c'est évidemment la clé pour réouvrir la société, réouvrir la culture, réouvrir les universités. Si vous me demandez sur quoi je me fais le plus de soucis, c'est sur les universités et les étudiants.
Mais justement, Marion Mourgue,
dites qu'il faut vivre, il faut que la société vive avec le virus. Est-ce que vous allez jusqu'à dire qu'aujourd'hui, on peut réouvrir les musées, qui sont des espaces assez grands, où les mesures sanitaires, les barrières sanitaires peuvent être respectées? Est-ce que vous dites, voilà, il faut qu'on s'adapte et il faut qu'on les rouvre?
Moi, je pense qu'on peut réouvrir les musées. Avec toute la prudence nécessaire à l'entrée, en vérifiant que les 2 mètres entre les visiteurs sont respectés. Mais vous voyez, comme commissaire au plan, sorti en octobre, le premier rapport, je crois qu'il n'y en avait jamais eu, ni en Europe ni en France, sur le thème « Et si le Covid durait ?» Parce que dès ce moment-là, mon intuition, c'est qu'il allait falloir changer nos genres de vie. Et on est en train de changer nos genres de vie.
Mais alors, est-ce que vous comprenez
que le gouvernement
ne s'embrasse plus, pas les musées ou d'autres espaces qui pourraient accueillir du public sans...
Non, mais je n'ai aucune intention de faire des polémiques avec le gouvernement.
Sans faire des polémiques, en faisant des propositions.
J'ai toujours défendu l'idée que dans les cas de risque grave, on doit se serrer les coudes, on doit faire bloc. Je connais ceux qui prennent les décisions. Ils les prennent avec beaucoup de conscience. Ils s'entourent de tous les avis. Ils ont découvert que les avis scientifiques n'étaient pas toujours d'accord entre eux.
Ça, ce que vous dites là, ça veut dire quoi? Qu'on a beaucoup écouté ou trop les blouses blanches?
Non, vous voyez, vous essayez toujours de...
Non, j'essaie de comprendre.
Je pense que la décision politique, elle n'est pas délégable, y compris à des experts. Parce que la décision politique, elle doit prendre en compte la totalité d'une société, des personnalités de ceux qui la forment, des risques encourus. Et je dis que le risque du reconfinement, il y a des lieux, il y a des milieux sociaux, il y a des âges où le risque du reconfinement est considérable.
Pardon, alors, juste avant qu'on revienne sur les étudiants, sur le passeport vaccinal, qu'on soit très précis, François Bayrou, vous dites, on attend que la grande majorité ou tous ceux qui ont voulu être vaccinés puissent être vaccinés pour mettre en place ce passeport vaccinal, ou on le met très rapidement en place?
Non, mais...
C'est-à-dire, par exemple, au mois de mars, les restaurants et ceux qui ont eu la chance ou la possibilité de se faire vacciner pourront commencer à y retourner?
Vous avez bien vu que, pour l'instant, le gouvernement n'est pas sur cette ligne.
Oui.
Mais je profite de ma liberté pour défendre des lignes qui ne sont pas toujours les lignes des décideurs. Et je pense que c'est bien.
Mais à quelle échéance?
Quelle est mon idée? Elle est très simple. Du moment que le vaccin est efficace et qu'il est sûr, alors la vérification... auprès de chaque citoyen qu'il a pu être vacciné s'il le souhaite, doit ouvrir des possibilités de réouverture des universités, de réouverture des lieux de culture. Et après tout, c'est exactement ce qu'on fait tous les jours. Quand vous allez en Guyane, c'est la France, la Guyane, quand vous allez en Guyane, eh bien on vous oblige à avoir une carte de vaccination de la fièvre jaune. Et chacun des bébés que vous avez été tous, assez récemment, chacun des bébés a les, je ne sais pas combien, 10 ou 11 vaccinations. Autrefois, c'était désormais le tétracoque. Maintenant, voilà, on y ajoute des vaccinations supplémentaires. C'est le cas de chacun d'entre nous.
Oui, mais ça veut
dire
qu'on peut ouvrir très rapidement, c'est-à-dire au mois de mars, si on commence à être vacciné à 5 millions de personnes.
Je veux bien vous dire précisément en étant optimiste, dès l'instant que nous aurons les doses de vaccins, on peut vacciner très vite une très grande majorité des Français. Je prends des chiffres précis. Il y a en France 22 000 pharmaciens d'officine, comme on dit. Ils peuvent faire des vaccinations, ils ont l'habitude de les faire, y compris contre la grippe. Il y a des médecins de ville. Il y a, on peut monter très vite des...
Et vous avez dit qu'il y a les doses. Oui. Le problème, c'est les doses.
Voilà.
Mais on les a pas. Et
on peut monter, nous l'avons fait chez nous, pour les tests, on a prélevé jusqu'à 2000 personnes par jour pour faire des tests.
Ça veut dire, François Bayrou,
c'est pas plus difficile de faire un test que de faire une piqûre de vaccin. Mais vous avez raison,
Marion. On les attend toujours, on ne peut pas prendre
la rendez-vous. La question, c'est les doses, parce que l'appareil industriel... Les laboratoires du mal à produire les vaccins. On vient de décider qu'à Pau, on allait produire du vaccin, du nouveau vaccin, et c'est très très bien parce que on sait qu'on va avoir là plusieurs dizaines de milliers de doses disponibles supplémentaires.
Adrien Gendre.
Juste un tout petit mot avant qu'on en vienne aux doses, François Bayrou. Vous rappeliez à l'instant qu'il y a des populations comme les étudiants qui sont particulièrement en difficulté. Vous dites... On peut rouvrir certains lieux en fonction de la vaccination. Est-ce que vous considérez qu'il faut changer un peu les priorités vaccinales et par exemple se dire on va vacciner les étudiants en priorité pour leur permettre, eux, de reprendre un semblant de vie normale ?
Ah, c'est compliqué parce que ça dépend du vaccin et des effets secondaires du vaccin. Il y a des médecins qui disent, et non sans raison, qu'il y a avec certains vaccins des effets secondaires plus importants chez les plus jeunes que chez les plus âgés. Et donc ça, c'est au médecin de dire si c'est possible. Mais si c'est possible, alors moi je suis pour la vaccination la plus large et qu'on puisse réouvrir la vie. Réouvrir, et notamment la vie des jeunes, la vie des étudiants. Un mot sur ce sujet. Il y a des jeunes étudiants, au moment où ils entrent à l'université, qui sont extravertis, qui ont envie de s'amuser, de rire, qui rencontrent les autres, pour qui c'est facile. Mmh. Et puis il y a des jeunes garçons et des jeunes filles qui sont plus introvertis, qui ont plus de mal à rencontrer les autres, qui parfois viennent ou souvent de milieux sociaux qui ne leur donnent pas ces facilités matérielles et de contact et de relations et de langue et de... Et cela, il s'ouvre beaucoup.
Mais alors pourquoi, François Bayrou, pourquoi on n'ouvre pas les amphithéâtres ? On s'interroge tous ici et les Français qui nous regardent. Les amphithéâtres sont très grands. Pourquoi on ne dit pas 50% des étudiants peuvent y aller ? Aujourd'hui, c'est un jour par semaine. Est-ce qu'il n'y a pas une incongruité ?
Signalons qu'un jour par semaine, c'est une décision nouvelle, parce qu'avant, c'était tout fermé. Oui. Et je souhaite qu'on aille progressivement, à une allure soutenue dès l'instant qu'on aura des assurances du point de vue épidémiologique, qu'on aille en effet à une réouverture. C'est pas normal que les jeunes soient fermés dans des chambres d'étudiants et parfois seuls.
Mais quand
vous dites
qu'on aura des
personnes
sur le plan épidémiologique, ça peut être dès maintenant ?
Sur le plan de la vaccination, poserez la question aux scientifiques que vous recevez souvent.
Vous parliez des doses de vaccins qui manquaient. Est-ce que vous, l'Européen convaincu, vous jugez que l'Europe, finalement, n'a pas rempli sa tâche, puisque la commande s'est faite au niveau européen et qu'on en manque ? Est-ce qu'il aurait fallu faire autrement ?
Je pense que si, il y a un an exactement, on avait dit, alors que l'épidémie approchait seulement, à pas de loup, si j'ose dire, si on avait dit on va avoir une épidémie qui va toucher la planète tout entière, cette épidémie, elle va mettre l'économie de la planète par terre, en tout cas des secteurs entiers, le voyage, le tourisme, l'aéronautique, et donc les entreprises qui vont avec. Mais on va être assez fort pour trouver un vaccin dans les 6 mois. Et dans un an, on aura commencé, aurait-on dit en 2020, en février 2021, on aura vacciné plusieurs millions de personnes. Personne ne l'aurait cru.
Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire autrement
alors,
les prochaines commandes ?
Naturellement, on peut toujours faire des reproches, expliquer que ceci n'a pas été bien fait, ceci aurait pu être mieux fait. En réalité, et assez souvent, c'est les gens qui ne sont pas aux responsabilités qui pensent ça.
Mais pourquoi l'Europe ? Non, mais sur l'Europe, François Bayrou, est-ce que l'Europe n'aurait pas dû donner les moyens comme l'ont fait les États-Unis à des laboratoires comme celui de Sanofi, comme Pasteur, en leur donnant la mission de trouver un vaccin le plus rapidement possible ? Est-ce qu'elle n'a pas failli à ce moment-là ?
Non, je partage pas du tout ce genre de sentiment. Je pense qu'on a fait des choses qui étaient difficiles à faire. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux en Europe et en France ? Je suis sûr que oui. Mais il y a des décennies qu'on laisse filer la capacité ou que on laisse trop souvent filer la capacité industrielle du pays, y compris dans la pharmacie. Il y a des décennies que tout ça est délocalisé. Il y a des décennies que, gouvernement après gouvernement, en réalité, on ne prend pas à bras le corps cette affaire. Vous disiez, est-ce que ça n'a pas été trop tard de mettre un commissariat ou de remettre un commissariat au plan ? Je me bats sur ce sujet depuis 15 ans. Et je me bats sur le sujet du produire en France depuis 15 ans. Je ne dis pas que je sois vertueux ni un ange plein de sagesse.
Mais le président de la République a attendu 2020 pour se rendre compte que c'était nécessaire.
Non, le président de la République a mené une partie de la campagne électorale sur ce sujet. Et les crises que ce président de la République a rencontrées, je pense qu'elles sont les plus graves et les plus inédites qu'on ait eu à traverser.
Et sur le produire français, quand vous entendez Arnaud Montebourg monter au créneau sur cette question, vous dites que vous avez un nouvel allié et qui peut être politiquement quelqu'un avec qui travailler ?
Oui, je trouve que plus on est à pousser dans ce sens-là. Je vais vous dire peut-être pour ouvrir sur un autre sujet pour l'avenir.
Attendez, juste, pardon.
Oui.
François Bayrou, sur ce sujet, Arnaud Montebourg, pour continuer ce que dit. En 2016, Arnaud Montebourg nous dit qu'Emmanuel Macron avait reçu une note indiquant qu'on était en rupture de stock sur 400 médicaments stratégiques. En 2016, qu'il fallait à ce moment-là recréer une filière pharmaceutique nationale. Et il dit, le président n'a rien fait.
Oui, ce genre de polémique, comme vous voyez, c'est pas la mienne. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens que ces polémiques lassent.
Mais
vous
avez des questions sur la programmation.
Là, c'est exaspère. Attendez, là, c'est exaspère. Il y a 20 ans, plus de 20 ans, plusieurs décennies, que... il y a comme une certaine indifférence, y compris des gouvernements auxquels Arnaud Montebourg appartenait. Mais j'ai pas de polémique avec lui. J'essaie de regarder la réalité du pays et ce qu'il faut faire. Nous sommes devant une obligation économique, sociale et morale de reconstruction de l'appareil productif du pays.
Et donc,
de reconquête de l'appareil productif du pays. Ça doit se faire avec tous ceux qui sont intéressés à cet objectif. C'est la raison pour laquelle je propose des évolutions dans les institutions, pour qu'on puisse rassembler des forces différentes.
Ça, on y viendra, bien sûr.
Il est vital qu'on mesure que la France a des obligations qui sont plus importantes que celles de tous ses voisins. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, comme tous nos voisins, nous devons faire face à l'obligation de solidarité en face de cette crise, de cette épidémie, soutenir les entreprises, soutenir les salariés, qui autrement seraient au chômage, soutenir les familles, c'est très important. Et on a en même temps, ça c'est d'une certaine manière une économie de guerre, on a besoin. Et deuxièmement, on a à penser la reconquête, notamment industrielle, de la production au sens large du terme
mais
du pays.
Ça, pourquoi, un exemple concret.
Pourquoi attendez, je vais vous donner pas seulement un exemple concret.
Une
certitude. Nous avons le contrat social le plus généreux du monde. Plus généreux du monde. Mais ce contrat social, s'il n'est pas financé par un appareil de production qui permette d'avoir des impôts et des salaires, il n'y a, écoutez-moi bien, il n'y a aucune chance qu'il dure. Et donc, si nous sommes devant cette certitude-là, si on veut sauver le modèle social français, alors il faut faire de l'économique et de l'économique de reconquête.
Alors justement, alors, parce qu'il y a des, aussi des trucs
aujourd'hui,
Adrien
Jean, François Bayrou, quand on regarde le cas de l'entreprise de biotechnologie franco-autrichienne, Valneva, qui est installée dans la région de Nantes, et qui nous dit, on avait un projet, on a sollicité la France parmi d'autres gouvernements, mais le gouvernement britannique a été plus rapide à réagir, et donc cette compétence, cette production vont nous échapper. On sera concerné bien plus tard par la production de Valneva. Qu'est-ce qui se passe en France aujourd'hui, François Bayrou, pour qu'on laisse échapper des...
Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, deux sur trois des laboratoires qui ont gagné, pour l'instant, la course au vaccin.
Dirigés par des Français.
Deux sur trois de ces laboratoires sont dirigés par des Français. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce que nous constatons tous les jours, nos chercheurs, on les forme, on les promeut, on leur permet d'arriver à l'excellence, et puis ils sont captés par les États-Unis en particulier, ou d'autres pays, la Suisse ou autres. C'est une responsabilité nationale. Si nous ne sommes pas capables de regarder en face cette dérive à laquelle nous sommes exposés, on en aura d'autres chercheurs, mais c'est vrai en biologie, comme on le constate, c'est vrai en économie. La prix Nobel française d'économie, c'est aux États-Unis qu'elle se trouve. Il est d'urgence nationale que nous reconstruisions une capacité de notre appareil de recherche qui est pour l'instant fragilisé.
Mais c'est une question de moyens.
Qui n'est pas attirant.
C'est quoi, c'est un pourcentage du PIB ?
C'est deux choses. C'est une question d'organisation. Si vous regardez la recherche médicale, ce que je fais dans le cadre du plan, alors vous apercevez que c'est explosé dans des multiples organisations, chacune étant indépendante et travaillant pour elle-même. Mais où est la possibilité de fédérer tout ça, de faire travailler ensemble? Je prends un exemple très, très simple. La virologie. Dieu sait qu'on est au cœur du cœur de...
L'étude des virus.
L'étude des virus. Et je salue un virologue en particulier qui est en Belgique. Mais non, parce que j'ai un fils qui est en cette discipline. Donc, virologie. Les chercheurs dans ce domaine sont à l'intérieur de peut-être une dizaine d'organisations différentes.
Donc il faut une entité qui les regroupe ?
Il faut en tout cas une entité qui les fédère.
Et ça veut dire c'est...
Moi je ne suis pas pour les armées mexicaines où on est tous ensemble. Mais où est l'impulsion ?
Mais ce n'est pas le ministre de
la recherche ? Où est le suivi ? Alors le ministre fait ce qu'il peut. Moi je ne fais pas de polémique avec le gouvernement.
Mais c'est à l'État de piloter les acteurs privés, François Bayrou.
L'État a une responsabilité qu'on a abandonnée depuis très longtemps.
Quitte à investir une responsabilité dans une société privée ?
Oui, bien sûr.
Ah ben, ça c'est important ce
bien
que vous
sûr.
Dites là.
Ouais. Quitte à... quitte à investir, quitte à capter à notre tour des chercheurs chez nous, quitte à travailler avec des acteurs privés autant qu'avec des acteurs publics, avec la recherche privée autant qu'avec la recherche publique, mais il faut qu'on reprenne la marche en avant.
Est-ce qu'on a les moyens de le faire?
Alors, oui, nous avons les moyens de le faire, pourvu que nous pensions un plan sérieux.
Mais c'est un plan Marshall, vous en parlez ce matin.
Oui.
Plan... Mais combien doit être doté ce plan Marshall? On a déjà un plan de relance de 100 milliards d'euros, ce qui est inédit, François Bayrou. Il n'y avait même pas eu ça pour la crise de 2008. On se dit que 100 milliards, ça devrait permettre cette reconquête. Et là, vous dites non, il faut plus, il faut un plan Marshall. De combien doit-il être doté et vers quel secteur en particulier?
D'abord, on va le définir. Moi, j'ai une idée d'ordre de grandeur des chiffres. Mais le plus important, c'est qu'on se fixe des objectifs et qu'on s'organise pour les atteindre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant des décennies? Deux phrases. Il s'est passé quelque chose. Pourquoi il y a eu tant et tant de délocalisation? Parce que on a cru en France, les gouvernements successifs et l'opinion publique successif ont cru que ce qui était bon pour les entreprises était bon pour le pays. Et c'est vrai la plupart du temps. Mais cependant, l'intérêt général, ça ne se limite pas à la somme des intérêts particuliers. Et cette vision-là, qui est une vision de la responsabilité de l'État, capable de dire dans ce secteur on est en train de faiblir, alors on va construire, attirer...
Et quel calendrier, François Bayrou ? C'est à quelle échéance justement ce plan Marshall ?
Ça sera l'œuvre de la décennie dans laquelle nous sommes et ça devrait avoir un horizon au moins à 3 ans. Pour avoir quelque chose qui, qu'on se fixe des objectifs.
Mais on le commence comment et combien mais c'est, parce que c'est important les chiffres aussi.
Non mais vous êtes.
Tout le monde nous dit que quand même que l'argent en ce moment on le trouve. On a trouvé 100 milliards donc ça veut dire qu'on peut le trouver pour un plan Marshall. Mais on s'interroge, on se dit est-ce qu'il y a un chiffre alors, que vous avez élaboré vous en tant que haut commissaire au plan.
Oui, en tout cas que je propose. Mais vous êtes en train de poser la question de la dette.
Oui, mais d'abord des moyens que vous affectez à ce plan Marshall.
C'est la même question.
C'est intéressant.
Excusez-moi, la dette Covid, c'est la même question.
Oui. Donc on finance le plan Marshall par la dette.
Ben oui, il n'y a pas d'autre moyen de financer un plan.
Mais
vous savez, après la guerre, le plan Marshall, au sens propre du terme, celui qui a permis la reconstruction de la France après la guerre mondiale, en 45, à partir de 45-46, et Jean Monnet, le commissaire au plan, était évidemment au cœur de cette affaire. Après la guerre, le plan Marshall, c'était des crédits américains. C'est les Américains qui ont financé le redressement de la France contre l'engagement d'acheter américain. Les machines-outils, les machines agricoles...
Et là, il faudra peut-être des impôts pour compenser tout ça.
C'était ça. Vous voyez que vous tournez autour de cette question. Cette fois-ci, évidemment, ça ne sera pas des crédits américains. Et heureusement, c'est d'une certaine manière...
Des crédits européens.
Les Français doivent être capables de financer eux-mêmes leur plan Marshall. Comment le financer ? Parce que nous avons l'immense chance, grâce à la Banque Centrale Européenne et aux banques centrales de la planète, de pouvoir emprunter à des taux zéro pour l'instant.
Mais la présidente de la BCE, Christine Lagarde, dit bien que cette dette, il faudra la rembourser.
Mais vous ne m'avez pas posé la question. Alors à l'instant, vous me la poserez, je vous donnerai la réponse.
Comment on rembourse cette dette ?
Finissons la phrase d'abord, avant d'aller à la question suivante.
Vous allez finir cette phrase pour vous dire, puis on va faire la pause.
Qui est très importante. Hein. Nous avons la chance... historique, sans précédent, aucune génération avant nous n'a eu cette chance de pouvoir emprunter pour reconstruire la force et la capacité et la puissance de notre pays à 0%. Simplement, il y a en effet des gens qui disent « oui, mais il ne faudra pas le rembourser ». À mon sens, c'est une énorme faute de penser comme ça. Pourquoi ? Oh ben c'est très simple, vous en êtes les témoins dans votre vie. À l'instant même où vous dites à quelqu'un qui vous a prêté « je ne vous rembourserai pas », vous ne pouvez plus jamais emprunter un euro.
Et donc ça veut dire qu'il faudra augmenter à défaut d'augmenter les impôts, augmenter les taxes. Est-ce qu'on joue pas sur les mots quand le gouvernement nous dit on n'augmentera pas les impôts, François Bayrou?
Est-ce que ça veut pas dire que les taxes, on devra les augmenter? Vous me prêtez des réflexions qui ne sont pas les miennes.
Ah ben donc vous dites qu'il faudra augmenter les impôts.
Non, je ne dis pas ça. Je dis que votre manière de voir est courte, pardon, de vous dire ça. Nous aurons des impôts, oui, nous aurons des taxes, le jour où nous aurons une économie qui aura retrouvé sa puissance.
Très bien.
L'urgence, elle est de se rendre compte tous ensemble, État et entreprises privées, que nous avons à rendre à la France la capacité économique, industrielle, productive au sens large du terme, aussi bien dans l'agriculture que dans les services, dont on a besoin pour financer cette solidarité.
On poursuit cette conversation dans le grand jury de François Bayrou. Dans quelques instants, on parlera bien sûr de la proportionnelle. A tout de suite.
Sur Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez. Sur une barque,
c'est un super prix.
Lors d'une partie de pêche en mer,
c'est un super prix. Oh oh, ça mord.
Ou même dans le ventre d'une baleine,
c'est vraiment un super prix.
Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, vous allez être vert.
Ah oui ? Et vert comment ?
Eh ben, vert courgette, hein, parce que dès demain chez Lidl, le kilo de courgette est à 1,49€.
1,49€ le kilo de courgette ? C'est pas possible.
Ah si, et c'est le vrai prix, hein.
Bon, t'arrêtes de me courir sur l'haricot avec les courgettes, ok ?
Ok, on est mal, patron.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine Espagne et ou Maroc. Nos supermarchés sont livrés quotidiennement et vous accueillent en toute sécurité jusqu'à 18h. Profitez des heures creuses pour faire vos courses. Plus d'informations sur Lidl.fr.
RTL, il est 12h30. Les infos, Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Myriam, bonjour à tous. Je pense qu'on peut rouvrir les musées avec la prudence nécessaire. Déclaration ce midi de François Bayrou, le haut commissaire au plan et maire de Pau, invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Et d'ajouter, le passeport vaccinal est la clé, le confinement doit être le dernier recours. On n'a pas une explosion des cas, le risque du reconfinement pour certains âges et certains milieux sociaux est considérable. Dans le même temps, l'épidémiologiste et membre du conseil scientifique Arnaud Fontanet explique lui ce matin dans le journal du dimanche que sans confinement, les chances de contrôler l'épidémie sont minces. Pour lui, tout va se jouer sur la capacité à contrôler la progression du variant anglais. Responsable de 3,3% des nouvelles contaminations en France début janvier, il devrait atteindre 30 à 35% des nouveaux cas mi-février. 8 départements toujours en vigilance crue inondation. À Saintes, en Charente-Maritime, le pic est attendu demain midi et pourrait dépasser les 6,80 m de la dernière crue historique en 1982. En Ile-de-France, les vannes anti-crues sont activées dans le Val-de-Marne autour de Joinville. À l'étranger, au moins 3 morts et 150 personnes portées disparues après la crue d'une rivière dans le nord de l'Inde, provoquée par la rupture d'un glacier dans l'Himalaya. La police ajoute que 16 ou 17 personnes sont coincées dans un tunnel. En Birmanie, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Rangoon avec des masques, des foulards et des bracelets aux couleurs de la Ligue nationale pour la démocratie. Le parti d'Aung San Suu Kyi arrêté lundi après un coup d'État contre son gouvernement civil. Les connexions Internet sont partiellement restaurées après avoir été perturbé depuis plusieurs jours. En sport, la Ligue 1 se poursuit aujourd'hui. Coup d'envoi à 13h de Brest-Bordeaux. À 15h, Montpellier-Dijon, Nice-Angers, Nîmes-Monaco et Saint-Étienne-Metz. Et à 17h, Nantes-Lille. Ce soir, clôture de cette 24e journée avec le 100e classique de l'histoire entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. 400 policiers vont être mobilisés quelques jours après les incidents au centre d'entraînement de l'OM. Rendez-vous dans RTL Foot dès 20h avec Eric Silvestro. Avant ça, vous retrouvez Isabelle Langer pour On refait le sport à 19h30 avec ses invités, les danseurs de l'Opéra de Paris, Alice Renavant et Germain Louvet. Et en rugby, le tournoi Destination continue. Après la victoire de la France hier face à l'Italie, le Pays de Galles affronte l'Irlande à 16h. La météo de ce dimanche, des températures en baisse et des pluies presque partout. Seul le pourtour méditerranéen bénéficie d'un ciel assez bien dégagé. Des chutes de neige en montagne à basse altitude, mais aussi en plaine comme sur les Hauts-de-France. Les températures aujourd'hui, 2 degrés à Dunkerque, 5 à Orléans, 14 à Marseille, 16 à Bastia. Les courses cet après-midi, c'est à Vincennes avec un départ à 15h15. Les pronostics de Dominique Cordier, le 13, le 12, le 2, le 5, le 8, le 11, le 9. La dernière minute, c'est le 2. 13, 12, 2, 5, 8, 11, 9. La dernière minute, c'est le 2. Dans un instant, vous retrouvez la suite du grand jury RTL Le Figaro LCI avec Benjamin Sportouche et son invité François Bayrou, haut commissaire au plan et maire de Pau.
Bonjour, c'est Julien Cellier.
RTL Petit Matin.
On vous retrouve chaque matin dès 4h30 jusqu'à 7h avec Marina Giraudot pour décrypter, analyser cette actualité chargée, vous donner toutes les clés avec la brigade RTL, déconstruire quelques fake news, surfer sur la une avec l'ami Cyprien Sini et puis pour vous entendre, bien entendu, au 32-10. Mais rassurez-vous, on sait aussi vous divertir. Le plat du jour, laissez-vous tenter première, l'histoire qui réveille. Bref, chaque jour, un petit déjeuner copieux, varié, équilibré sur RTL.
4h30, 7h, RTL Petit Matin.
À demain.
Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le haut commissaire au plan et maire de Pau, François Bayrou. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Marion Monk du Figaro et Adrien Gindre de TF1 LCI, vous disiez, et vous dites depuis quelques semaines, François Bayrou, que nous sommes dans une économie de guerre et donc se pose une question sur les vaccins. Marion Mourgue.
Est-ce qu'il faut des moyens d'économie de guerre? C'est-à-dire que pour les vaccins, est-ce qu'il faut rendre leur accès libre, faire tomber leurs brevets dans le domaine public?
En tout cas, la multiplication des vaccins va d'une certaine manière jouer ce rôle-là. Mais si vous faites tomber les brevets dans le domaine public, ça veut dire que vous rachetez les brevets au laboratoire et naturellement, ce sont des...
Ou on peut considérer que c'est un effort de guerre, un effort de solidarité nationale au moment où on a cette pandémie.
Oui,
l'idée... c'est vrai, honnêtement, cette question, elle taraude beaucoup de gens. On est dans une guerre, une pandémie qui fait des morts, tout le monde est inquiet, on se dit, il y a des vaccins, est-ce qu'il ne faut pas préempter ces vaccins pour les produire massivement et vacciner dans le mois qui vient?
Et ben dans ce cas-là,
300 millions de personnes.
Dans ce cas-là, vous achetez les licences et après vous bâtissez l'appareil industriel. Mais achetez les licences.
Et bien,
vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas imaginer que vous avez des laboratoires qui vont investir à perte pendant des années dans des recherches qui sont des recherches extrêmement de pointe absolue, en prenant des risques financiers considérables, et le jour où ils trouvent, leur dire, mesdames et messieurs, excusez-nous, mais nous, on va prendre votre
Alors
découverte.
D'accord, pas de préemption, mais donc, pourquoi ne pas acheter ces licences? Est-ce que vous, haut commissaire au plan, vous dites, oui, je pense que l'État pourrait acheter ces licences pour produire lui-même?
Mais il y a... Combien de laboratoires qui sont en train de chercher des vaccins et d'en trouver, comme on l'a vu, grâce à cette voie de recherche nouvelle qu'on appelle ARN messager. Combien il y en a? Plusieurs dizaines. Et heureusement, la production de chacun d'entre eux, on le voit encore, puisqu'un troisième et peut-être quatrième vaccin vient d'être... homologué, si j'ose dire. Moi, je pense que il n'y a aucune raison de mettre en doute la recherche du succès que le risque pris par des chercheurs et des laboratoires de pousser une voie scientifique et après de créer une petite entreprise partie de rien, une start-up comme on dit. Je trouve que c'est bien, que c'est vertueux, parce que l'idée selon laquelle ce succès serait interdit, cette idée n'est pas la mienne, et si vous faites ça, vous allez stériliser un certain nombre de chercheurs.
Le succès n'est pas interdit, mais la pandémie est là aussi, Adrien Gingre.
Est-ce que vous acceptez quand même, François Bayrou, qu'on se pose des questions sur la manière dont les choses sont organisées? Ce matin, le député européen Yannick Jadot, pour Les Verts, dit qu'il veut une plainte contre la Commission européenne pour faire la transparence sur le processus de commande de vaccins.
Bon, on est dans un temps où la mode est de chercher des boucs émissaires, des coupables, des responsables, et de clouer au pilori la terre entière. Quand c'est pas le gouvernement, c'est la commission. Quand c'est pas la commission, c'est les entreprises privées. Je trouve que cette approche-là, pardon de le dire, peut-être je vais me faire mal voir, mais c'est ma liberté, je trouve que c'est malsain. Je trouve que l'approche qui consiste à être perpétuellement dans un temps de dénonciation de tout le monde. Si Yannick Jadot avait des idées différentes, et je le respecte tout à fait, pourquoi il ne l'a pas dit il y a 6 mois, il y a 3 mois, il y a 4 mois? Il est parlementaire européen, que je sache. Il peut donc interpeller au Parlement européen. Je ne lui fais pas de procès, je ne lui cherche pas querelle. Je dis que l'idée selon laquelle la politique, la réflexion commune, la recherche d'un chemin consiste à perpétuellement désigner des coupables, cette idée est, une dérive de la démocratie.
Bien.
La démocratie, c'est... je vais vous dire la définition que je préfère de la démocratie. Elle est d'un philosophe qui s'appelle Marc Sangnier. Et Marc Sangnier disait, la démocratie, c'est l'organisation sociale qui permet de porter à son plus haut la conscience et la responsabilité des citoyens.
Responsabilité des citoyens.
Conscience et responsabilité de chacun d'entre nous.
Eh bien justement, on parle à l'instant de Yannick Jadot, mais Nicolas Hulot, dans Le Monde, qui a été ancien ministre de l'écologie, est très critique sur le projet de loi qui sera présenté mercredi en Conseil des ministres, projet de loi sur le climat. Et il dit de vous, je me désole de ne pas avoir entendu une seule fois François Bayrou, depuis qu'il a été nommé haut commissaire, parler de transition écologique.
Eh bien, il se trompe parce que j'ai reçu un certain nombre d'acteurs majeurs de la transition écologique pour des réunions très, très intéressantes et notamment sur la transition écologique, sur les mobilités. Mmh. Il se trouve, comme vous le savez peut-être, que j'ai mis en place la première ligne de transport en commun au niveau de service au monde, la première au monde, à hydrogène. Parce que je pense...
Dans votre ville de Pau.
Oui, mmh. La première au monde... que viennent voir constamment tous les responsables des plus lointaines.
Ah, il vous dirait, là, on ne doit pas cacher la forêt. Voilà ce que vous direz Nicolas Hulot. C'est-à-dire que, certes, il y a un exemple, mais il y a tant de choses à faire. C'est vrai que la priorité ne semble pas celle-là aujourd'hui.
Et vous voyez, vous trouvez que l'hydrogène, ça n'est pas une priorité.
La transition écologique, est-ce qu'elle est toujours une priorité pour le gouvernement et pour le haut-commissaire?
Elle est une priorité pour chacun d'entre nous, à condition que nous trouvions des réponses concrètes et précises, et celles que je donne là, c'est-à-dire la transition par l'hydrogène comme vecteur de l'énergie issue de la puissance électrique, c'est en effet une réponse que je trouve absolument essentielle. Et je prends un exemple précis pour montrer... J'ai reçu la responsable du Haut Conseil chargée de cette transition écologique, qui est une jeune femme qui est en même temps en Angleterre, où elle est aussi responsable de cette question, elle est canadienne aussi. Cette jeune femme, elle dit, il y a une chose à faire, c'est électrifier la totalité du parc automobile français. Et je trouve que tout ça, ce sont en effet des pistes intéressantes. Ça pose deux questions. La première, c'est où trouve-t-on l'électricité nécessaire et combien représente la quantité d'électricité à produire pour faire marcher à l'électricité tout le parc automobile français? La réponse est qu'il faut augmenter la production électrique de la France de... un ordre de 35 à 40%. Mmh. Augmenter notre production électrique. Comment fait-on pour augmenter la production électrique si on ferme les centrales nucléaires?
Ça, vous êtes un défenseur des centrales nucléaires.
Je suis un défenseur de l'électricité décarbonée.
Mmh. Et le nucléaire en est une.
Le nucléaire, où nous avons la chance d'être présents. Si nous arrivons à régler les problèmes d'évolution, alors ça permet non seulement de fournir de l'électricité pour les voitures, ça permet autre chose. Ça permet de fabriquer des cellules photovoltaïques.
Alors, François Bayrou, écoutez cette question en plus de Grégoire Frati. Il est membre de la Convention citoyenne pour le climat. Convention citoyenne que vous n'avez pas épargnée en parlant d'une acrobatie démocratique. Écoutez sa question.
Le grand jury, la question en plus.
Bon. Bonjour Monsieur Bayrou, je suis Grégoire Frati, tiré au sort pour la Convention citoyenne pour le climat. Vous avez émis beaucoup de doutes sur la démocratie participative qui, pourtant, associe enfin le politique et le citoyen. Au contraire, moi je pense qu'on peut travailler ensemble et co-construire des choses nouvelles pour la République. Maintenant que la Convention citoyenne pour le climat a posé sur la table 149 mesures, est-ce que vous considérez que vous avez peut-être eu tort et que nos mesures sont loin d'être farfelues?
François Bayrou.
Non, je pense que...
Les acrobaties démocratiques.
Je pense que les mesures proposées là, il faut les examiner sereinement et sagement. Sur quoi j'ai en effet émis des doutes. J'ai émis des doutes sur le tirage au sort.
Et sur la méthode des collectifs qui se multiplient.
Oui, l'idée que la démocratie doit s'en remettre au tirage au sort, c'est, excusez-moi de le dire, mais ma chance c'est d'avoir gagné la liberté de dire à peu près ce que je pense avec le temps. C'est une négation de la démocratie comme elle a été construite, de la démocratie civique qui consiste à choisir des délégués pour vous représenter en tenant compte de leur personnalité et de leurs idées.
Qu'est-ce que vous répond Emmanuel Macron? Parce que c'est lui qui le met en place.
Je peux avoir des débats avec le président de la République et j'en rends pas compte généralement sur le plateau d'RTL. Et donc, cette idée-là, qui est une idée que certains défendent ardemment et tout le monde considère que même si on en pense du mal, il faut rien en dire. Moi, je pense que c'est pas ça la démocratie.
Eh bien, on va y venir.
Je pense que la démocratie, c'est précisément choisir des élus qui vont vous représenter en connaissant leur personnalité et leurs idées.
Alors, eh bien, on va en revenir parce que c'est bien évidemment le thème de la proportionnelle, mais question express d'abord.
Le grand jury, question express.
François Bayrou, pour ou contre le report de la réforme des retraites après 2022?
La réforme n'aura pas lieu avant 2022, on peut en arrêter des principes.
Pour ou contre l'interdiction du voile pour les mineurs dans l'espace public?
Le voile, alors je...
Pour les fillettes.
On ne sait jamais ce qu'on appelle voile, donc le voile, je rappelle, est interdit, le voile intégral est interdit dans l'espace public.
Mais pour les fillettes.
Il y a franchement très peu de fillettes qui sont concernées par ça, et je crois même que ça n'est pas dans cette coutume.
Pour ou contre un revenu universel, réclamé aujourd'hui dans les colonnes du JDD par des marcheurs de la majorité?
Si on trouve un moyen de le faire, naturellement, tout le monde est pour. Mais moi, je ne crois pas qu'il existe d'argent magique. Je crois pas qu'on puisse faire croire à une société qu'il suffit d'ouvrir le carnet de chèques. Je ne crois pas ça. Je pense que la solidarité, elle doit s'exercer précisément en étant responsable.
Mais ça veut dire que, par exemple, est-ce qu'il faut une contribution exceptionnelle des plus riches en période de Covid?
Tout peut être imaginé de cet ordre-là, oui.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, il y a toujours eu des impôts, c'est même le travail du Parlement. Le premier travail du Parlement, c'est de travailler sur la matière fiscale. S'il fallait, pourquoi pas?
Et enfin, dernier...
Il faut savoir ce qu'on appelle les plus riches, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes parmi les plus riches.
C'est qui plus riche?
C'est que vous êtes parmi les plus riches.
Peut-être vous aussi, François Bayrou.
Moi aussi, oui, bien sûr.
Alors, c'est qui plus riche?
Bien sûr.
À partir de combien est-on riche?
Ça dépend si on parle du patrimoine, de...
François Hollande avait dit c'est 4 000 euros par mois.
Pardon?
François Hollande avait dit en son temps c'est 4 000 euros par mois.
4 000 euros par mois, pour moi, c'est classe moyenne.
Pour ou contre, quitter la majorité si la proportionnelle n'est pas votée?
Non, je ne fais pas de chantage.
Alors justement, on en vient à la proportionnelle, question d'Adrien Jean.
D'abord une question très simple, vous avez adressé une lettre qui a été rendue publique au président à propos de cette proportionnelle pour qu'elle soit mise en œuvre. Est-ce qu'il vous a répondu d'ores et déjà?
Pour l'instant pas, mais on a des conversations. Mais vous voyez,
vous avez donné
la présentation que vous venez de faire, elle est insuffisante.
C'est une question et vous allez pouvoir y répondre, c'est l'avantage.
Parce que si c'était une lettre de François Bayrou au président de la République, d'abord j'imagine que j'aurais pas besoin de lui écrire, on pourrait faire ça de vive voix. Mais l'originalité de cette démarche, c'est que cette lettre, cette démarche de lettre, elle a été rejointe, ou partagée, c'est un mot plus exact, par les responsables de très grands courants politiques du pays depuis l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, en passant par le centre et par les écologistes.
Et c'est un sujet sur lequel les alliances avec les extrêmes sont possibles et souhaitables.
C'est un sujet sur lequel l'alliance des citoyens est nécessaire. Est-ce qu'on a souvenir qu'il y ait eu une démarche de cet ordre dans la vie politique française? À mon souvenir, non. Que des forces opposées regroupent, ou en tout cas s'affirment solidaires, pour dire on ne peut pas continuer comme ça, avec un Parlement dont les électeurs se détachent, ils ne participent plus aux élections, et lorsqu'ils ont une difficulté avec une décision qui va être prise, ils n'ont plus qu'une chose à faire, manifester, aller vers les blocages et les grèves et les violences.
C'est pour ça qu'il y a eu les Gilets jaunes, par exemple?
Je pense que ça a joué un très grand rôle.
Si on a vu la proportionnelle, peut-être aurait-on pu éviter...
D'abord, ils auraient pu présenter des listes et peut-être avoir des élus. Ce qui change complètement l'approche. Mais l'idée que la représentation, elle est réservée aux majoritaires, parce que c'est ça la vérité. Hier, PS et LR, l'UMP de l'époque, ils avaient tous les sièges ou à peu près, et aujourd'hui, on y
ajoute. Mais est-ce que l'actuelle majorité en est convaincue, François Bayrou ? Est-ce que la République En Marche et le président de la République sont aujourd'hui convaincus ?
Le président de la République, c'est un de ses engagements de campagne.
En 2017, justement, ce qui explique votre ralliement.
C'était pas un ralliement, c'était une alliance.
Un partenariat.
Il faut qu'on prenne les mots exacts. Et donc, ça faisait partie, en effet, de notre alliance.
Mais est-ce que vous êtes libéré de cette alliance s'il ne vous suit pas
Je suis. Vous rêveriez qu'on se dispute, mais je vais vous décevoir. Je n'ai aucune envie d'entrer dans ce genre de jeu. Je pense qu'une démarche aussi inédite que celle-là, des grands courants politiques qui représentent additionnés la majorité des électeurs du pays, et qui disent « nous pensons que ça ne peut pas continuer comme ça et qu'on aurait une démocratie enfin vivante et respectée si tout le monde y avait sa place ». Et pourquoi je plaide pour ça ? On est en train de vivre une crise inédite où tous les Français sont frappés.
Mais justement,
dont il va falloir sortir.
Vous dites que c'est indispensable pour sortir de la crise. Qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes pas entendu ?
Non, mais j'ai très bien compris votre question, mais je vais finir ma phrase si vous voulez bien. On ne peut pas sortir de cette crise s'il n'y a pas une responsabilité, une co-responsabilité de tous les courants politiques du pays. Tout le monde aura, d'une manière ou d'une autre, à prendre ses responsabilités en face de cette crise. Encore faut-il, pour que cela arrive, que tout le monde soit respecté. On n'est pas respecté. Vous savez que j'ai eu constamment des affrontements avec Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen, elle a été au deuxième tour de l'élection présidentielle. Elle a fait 35% des voix.
Et selon les sondages, elle pourrait l'être. Et elle talonne le président de la République.
35% des voix. Et elle est revenue à l'Assemblée nationale un mois après avec 6 députés. Soit 1% des sièges. Elle fait 35% des voix. Elle revient avec 1% des sièges. J'ai fait en 2007 19% des voix et je suis revenu avec 1,5% des sièges.
François Bayrou, si jamais ça se reproduit ce scénario, vous pensez que ça peut donner lieu à une explosion populaire de gens insatisfaits ? Imaginons que le score de Marine Le Pen soit plus élevé qu'il ait été en effet en 2017 et qu'elle se retrouve dans la position de ne pas avoir suffisamment de députés, si tant est qu'elle ne soit pas élue. Est-ce que vous craignez que cela se manifeste dans la rue, faute d'avoir une représentation fidèle ?
Je vois bien que vous rêvez de plaies et de bosses.
Je ne rêve
mais
de
moi,
rien.
Mais moi,
je vous questionne.
J'essaie d'avoir une démarche qui n'est pas celle-là. Je ne suis pas dans la crainte et dans la terreur de ce qui pourrait se produire. Je cherche les moyens pour que ça ne se produise pas. Pourquoi Marine Le Pen fait-elle des voix ? Parce que ceux qui lui sont opposés sont décevants pour les électeurs. Et moi, je voudrais qu'il ne le soit plus et que tout d'un coup, les citoyens français voient se dessiner à l'horizon un chemin auquel ils pourraient adhérer, qu'ils pourraient respecter, dont ils disent « Ah ben, celui-là ou celle-là, on comprend ». On voit ce qu'ils veulent. Et au fond, ça peut nous intéresser et nous sommes impliqués là-dedans. Encore faut-il qu'on sorte de ce genre de fantasme. Je ne crois pas au pire. J'essaie de mettre en place ou de proposer que se mettent en place les conditions pour que les choses changent.
Y compris des coalitions, parce que la proportionnelle, vous le savez, ça peut modifier les équilibres, c'est le principe de la différence avec le régime majoritaire, et ça peut vouloir dire que si demain le président de la République est réélu, il devra peut-être composer avec de nouvelles formations à l'Assemblée.
Il n'a pas arrêté de le faire depuis qu'il est élu. L'idée, on vit avec une idée complètement fausse. Qui est que, une fois élu, le président de la République, il fait ce qu'il veut. Une fois élu, et quand il a une majorité, il fait ce qu'il veut. Ben, on l'a vu. Les gilets jaunes, le mouvement contre les retraites, il n'y a pas de réforme qui peut être adoptée s'il n'y a pas adhésion du pays. Vous comprenez ça ? Ce qu'il faut chercher, quand vous êtes président de la République française, et le président de la République française a plus de pouvoir qu'aucun président dans le monde, Ce qu'il faut chercher, c'est l'adhésion du pays et le dialogue.
Mais
Emmanuel Macron le sait bien.
Mais alors pourquoi il ne le fait pas ?
Mais il le fait.
Mais il attend que vous le passiez devant le Parlement. Pourquoi ne s'en est-il pas emparé ? Et est-ce que vous avez bon espoir vraiment d'aboutir, François Bayrou ?
Moi, je ne mène les combats que quand je pense qu'il y a une chance de les gagner.
Mais avec le soutien du président de la République ?
Avec la prise de responsabilité du président de la République. C'est lui, le président de la République, qui est garant des institutions.
Est-ce qu'il reste le temps
et que dise
pour le faire ?
Marion Mourgue, vous connaissez la Constitution. Que dit la Constitution ? Mais moi, alors je vais vous permettre de la découvrir. Que dit la Constitution sur ce sujet ? Elle dit quelque chose d'extrêmement simple. Elle dit la loi électorale garantit le pluralisme et l'équité de la représentation. Le pluralisme et l'équité. Vous trouvez qu'on a du pluralisme ?
Eh bien, vous dites que non.
Est-ce qu'on a du pluralisme ?
Écoutez, on verra si le président vous a entendu. Vous dites que vous voulez aboutir. On verra bien. Et ce sera certainement dans les prochaines semaines que nous serons fixés. C'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, question nette.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous. Bonjour François Bayrou. Donc vous avez déclaré il y a quelques instants que 4000 euros, ça correspondait à la classe moyenne. Mais au contraire, 4000 euros, bah, c'est très riche. Ça correspond aux cadres et aux chefs d'entreprise. C'est ce qui touche. Est-ce que vous êtes sûr que ce chiffre correspond vraiment à ce que peut gagner la classe moyenne en France ?
Un revenu de 4000 euros, je ne dis pas que c'est les riches.
Mais ce n'est pas très fréquent aujourd'hui comme revenu.
Si j'osais, je vous poserais des questions. Mais je
ne gagne pas 4000 euros.
Je ne le fais pas, mais...
Seulement 10% des Français gagnent plus de 3000 euros par mois.
Demandez à ces jeunes gens...
10% des Français gagnent plus de 3000 euros. C'est vrai.
En tout cas, si vous me dites, est-ce qu'à 4000 euros, on est riche, ma réponse est non.
Très bien. Eh bien, écoutez, c'est dit. Autre question, Marie-Pierre Haddad.
Vous avez aussi dit en début d'émission que vous étiez favorable à la réouverture des musées. Donc, plusieurs internautes espèrent que vous allez avoir gain de cause. Et ils veulent savoir si ce sera pareil pour les cinémas. Est-ce que vous êtes d'accord pour réouvrir les cinémas ?
Moi, je pense que les cinémas, en raison de la promiscuité, je pense que les cinémas réouvriront dès l'instant qu'on avancera vers la vaccination.
Donc les musées, oui, mais pas encore vers
les musées, pourquoi ? Parce qu'au musée, on peut avoir 5 mètres de distance entre nous. Puis c'est généralement des salles très hautes. Donc il y a moins d'aérosols, comme on dit, qui peuvent risquer de...
Autre question.
Mais vous avez compris, ma position, c'est autant que possible qu'on aille plutôt vers une réouverture que vers une fermeture, à condition que les précautions sanitaires soient
et
prises.
Et le plus tôt possible.
Et notamment pour les étudiants. Je l'ai beaucoup dit, mais j'insiste
justement,
sur
justement
ce sujet.
Justement, il y a une question sur les tests salivaires.
Alain avait une question par rapport aux tests salivaires. À défaut qu'ils puissent se faire vacciner en priorité, est-ce qu'il ne faut pas multiplier les tests salivaires pour pouvoir permettre la réouverture des universités ? Et ils se demandent pourquoi est-ce que leur homologation a pris autant de temps ? Est-ce qu'il n'y a pas eu un raté ?
Je ne suis pas compétent pour vous répondre.
Vous estimez pas
parce
que ça prend trop de
sur
temps
les tests
et que ça peut aider
salivaires,
on ne fait pas pour les écoles, pourquoi ne pas le faire pour
les... Sur les tests salivaires, la question c'est... Est-ce qu'ils donnent les bonnes réponses ? Et j'ai vu beaucoup de polémiques sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des faux positifs et des faux négatifs ? Et donc, je suis prudente sur la réponse.
Autre question, Marie.
Oui, un décret va permettre aux salariés de déjeuner à leur bureau, donc pour éviter les risques de contamination à la cantine. Il y a une semaine, pourtant, c'était considéré comme dangereux. Donc, vous en doutez, les internautes sont perdus. Est-ce que vous comprenez vraiment cette administration qui se mêle de tout et là, peut même donner le tournis à certains internautes ?
J'ai l'impression de m'entendre parfois quand je vous entends, donc oui,
d'où l'intérêt de la question nette.
Je pense que c'est plutôt moins dangereux de déjeuner au bureau que tout autre
est-ce
mode.
Est-ce que c'est vraiment au rôle de l'administration d'aller dans ce détail-là ?
Je pense que l'administration en France, mais peut-être pas seulement en France, en effet, elle a une propension à préciser des détails que peut-être le bon sens aurait pu. Mais comme je ne voudrais pas être à leur place, je n'ai pas l'intention de les critiquer.
Merci beaucoup François Bayrou, c'était votre grand jury. Merci à tous les trois, merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine, à la semaine prochaine.